Engagement citoyen, le magazine de l'éveil de la conscience de chaque citoyen pour son implication dans le développement du pays. Engagement citoyen pour un nouveau type de citoyen, pour un Congo nouveau. Suivez ce magazine de promotion des bonnes pratiques citoyennes. Tous les samedis à 16h30 et 22h30, le lundi à 14h15. Engagement citoyen, engageons-nous pour donner un avenir meilleur aux générations futures.
Bien, quitter son job des rêves pour démarrer son entreprise, un pari fou hein, pour certaines personnes. Elles n'osent même pas penser à l'idée un jour de quitter son travail, de quitter une sorte de zone de sécurité, de confort pour plonger dans l'univers incertain de l'entrepreneuriat. Ces gens doutent de leur capacité de mener à bien un projet et de rester et de réussir, n'est-ce pas? Alors, est-il possible de quitter son travail pour devenir entrepreneur? Quels sont les préalables à remplir avant de faire ce mouvement? Eh bien, on parle de tout cela avec notre invité Sam Kalambay, comme je le disais tout à l'heure. Il est consultant à business development, stratégiste et coach en entrepreneuriat. Monsieur Sam, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, dites-nous, est-ce que c'est possible de quitter un jour, d'imaginer quelqu'un qui a travaillé, par exemple, dans une entreprise pendant plusieurs années, imaginer un jour quitter son travail et devenir un entrepreneur?
Oui, c'est possible. On peut quitter son emploi, son travail pour se reconvertir en entrepreneur. Mmh. Donc, il y a des exemples comme ça et moi-même, j'en suis l'échantillon.
Ah, ok. Comment ça s'est passé pour votre cas?
Voilà, j'ai connu cette expérience pendant 4 ans. J'ai travaillé pour une société, une entreprise publique de la place, l'Office congolais de contrôle. Et j'ai fait un choix. C'était un choix difficile. Mais j'ai eu à le faire parce que j'avais de raisons et ces raisons m'ont poussé à prendre cette décision et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il est possible de le faire.
Il est possible de le faire.
Il est possible.
Alors quels sont les préalables pour celui qui veut se lancer? C'est pas du coup, hein, on décide aujourd'hui et le lendemain on change de casquette.
Effectivement, la première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est la peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Entreprendre, c'est prendre un risque. C'est lancer soi-même, c'est prendre un risque. C'est vrai que tu seras patron de toi-même, tu vas gérer ton temps comme tu le veux, tu n'as des comptes à rendre à personne.
À personne, oui.
Mais tu es face à de responsabilités que tu devras assumer. Et tu es obligé de réussir. Parce que là, tu es tenu au résultat. Vous savez, zéro, c'est le nombre ou le chiffre qui n'a pas d'explication. Mmh. Donc, tu es tenu au résultat. Donc, le préalable, premièrement, c'est être sûr que vous avez fait le bon choix. Alors, pour être sûr, il faut se préparer. Comment on se prépare? Est-ce que vous vous lancez parce que c'est un effet de mode? Parce que l'autre a essayé aussi de se lancer que ça a réussi. Mmh. Ou vous vous lancez parce que vous avez un rêve à réaliser. Ok? Mmh. Donc la première raison, il faut savoir si vous avez un rêve à réaliser. Deuxièmement, est-ce que vous êtes suffisamment préparé pour faire cette reconversion? Et la troisième des choses, c'est qu'est-ce que vous allez amener de nouveau dans le marché dans lequel vous voulez vous lancer?
Voilà.
Parce que vous allez trouver qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont dans ce marché.
Dans ce marché-là. Voilà, donc ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de se lancer. D'abord, vous parlez d'un rêve. Parlez-nous, quel rêve faut-il avoir pour oser quitter son travail et devenir entrepreneur?
Quand on parle d'emploi, on voit salaire. Et les salaires, c'est le fait que nous avons des tâches avec les compétences sous-jacentes. Et lorsque nous travaillons, nous sommes rémunérés. OK? Mmh. Et puisque nous donnons du temps à celui qui nous a employé, à celui qui nous a engagé, donc nous lui donnons par exemple 8 heures du temps de notre vie, c'est pour réaliser son rêve. Alors pendant que tu lui donnes ton temps et la compétence que tu as, lui, il est en train de réaliser son rêve de construire des immeubles, de s'acheter des belles voitures. Donc, tu contribues à la réalisation du rêve de ton employeur. Mmh. Alors que toi-même, tu as aussi des rêves personnels. Par exemple, tu veux avoir de villa, tu veux être le plus grand millionnaire de ta ville, de ton pays. Alors, pour arriver à cela, il faut aller dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas entreprendre si tu n'aimes pas c'est que dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Mmh. Alors, il faut voir dans ton cœur, est-ce qu'il y a la passion?
Qu'est-ce que j'aime faire?
Qu'est-ce que tu aimes faire? Mmh. Est-ce que ça brûle tellement au fond de toi jusque à te pousser à démissionner ou à te pousser à couper le lien avec ton emploi? Lorsque tu te rends compte que c'est une passion qui est plus forte, alors tu peux prendre cette décision. Donc, la première des choses, est-ce que tu as un rêve puissant? Un rêve vivant en toi?
Et c'était quoi votre rêve en quittant votre emploi?
Voilà, mon rêve, c'était d'être l'un des plus grands coachs en développement personnel et en entrepreneuriat. Mmh. Le deuxième rêve, c'était de lancer des solutions qui permettraient aux gens de devenir ce pour quoi ils sont appelés à devenir. Je suis en train de croire que chacun de nous a du potentiel, mais seulement il faut qu'il y ait des gens qui puissent les canaliser, les orienter pour les atteindre. Et pour cela, il faut qu'il y ait des centres de formation, il faut qu'il y ait des programmes de coaching et de suivi. Ça, c'est ma passion. C'est dans ça que j'ai baigné. Et je suis aussi passionné de la stratégie. J'aime imaginer des choses nouvelles, mmh, afin de faire avancer les choses, de mettre en place de nouveaux produits, des innovations et de la créativité. Donc, toutes ces choses ont fait que la routine était en train de ronger ma vie et de ronger mon cœur. Je ne supportais pas...
Ça arrive, hein, beaucoup de gens qui travaillent tombent dans la routine. Hein.
Effectivement.
Ils sont fatigués.
Je ne supportais pas de vivre dans la routine. Oui. J'étais toujours en train de penser...
Faire les mêmes choses tous les jours.
Voilà, ça me fatiguait. Et aussi, je fais des calculs. Lorsque je travaille dans une entreprise et que j'ai un contrat pour 30 ans, à la fin de ma carrière, c'est que je gagne peut-être 300 000 dollars ou 500 000, j'arrive à exagérer. Alors, si je vous donne 8 heures du temps de ma vie, après 30 ans, je n'aurais vécu que 10 ans pour moi-même. Et les 20 ans, j'ai donné ça à l'entreprise. Et quand tu prends les embouteillages qu'il y a dans cette ville, quand tu quittes le travail pour arriver à la maison à 20 heures, mmh, donc tu n'auras vécu pour toi que pendant 5 ans. Et 25 ans, tu l'as donné à l'entreprise qui te prenait 8 heures du temps de ta vie. Et ça, c'est le calcul que j'ai fait personnellement. Mmh. Je me suis dit non, je dois revoir ces choses, revoir mon budget, revoir chaque jour, qu'est-ce que chaque jour me produit. Et en fonction de ça, j'ai pris cette résolution de me lancer dans cet inconnu. Et je crois que jusque-là, ça marche.
Jusque-là, ça marche. Donc, la première chose, il faut avoir un rêve, et vous avez dit être sûr d'avoir fait le bon choix.
Effectivement, il faut être sûr, parce qu'il faut assumer le choix. Vous savez, ce n'est pas facile. L'entrepreneur a besoin d'être audacieux. Il n'y a que l'audace, il n'y a que la foi, oui, la foi, et la persévérance qui sont les choses qui vont vous permettre de tenir. Parce que nous sommes dans un système qui est instable. Les choses changent tous les jours. Mmh. L'économie est instable. Il y a beaucoup de paramètres.
Beaucoup d'incertitudes.
D'incertitudes, hein, qui ne vous permettent pas de vous lancer. Alors, pour cela, il faut avoir les compétences et les aptitudes pour savoir comment s'adapter. Je vais vous donner un cas, par exemple. Vous savez, quand on grandissait, on a connu que le Nido était dans de grosses boîtes, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Mais avec le temps, vous vous rendez compte, c'est comme si on a pris une lame de rasoir et qu'on coupait la boîte de Nido.
Oui.
Jusqu'aujourd'hui, on
et
a
c'est réduisé.
Voilà, on a de petits sachets de 100 francs, oui, de 150 francs. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur s'est rendu compte que je ne peux pas continuer à offrir la même chose,
la même quantité,
dans un contexte qui est changeant tous les jours.
Oui.
Alors, il s'est dit, comment je peux faire pour aller prendre le 150 francs qui est dans la poche de celui qui vit dans les quartiers périphériques, par exemple. Il s'est dit, je vais commencer à réduire la taille pour permettre à tout le monde d'avoir la même qualité, mais ça me permet de faire des entrées tous les jours.
Oui. Alors, vous avez dit aussi que la préparation est importante, parce qu'on peut pas se réveiller un matin, on dit bon, je quitte mon emploi, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ça demande une préparation.
Effectivement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle de coup de chance. La vie d'un homme peut changer par simple signature. Ça peut être un décret, ça peut être un oncle qui te propulse. Mais sans préparation, vous n'allez pas demeurer dans le succès. Le plus important, ce n'est pas d'atteindre le sommet, de faire de grands bénéfices. Mais le plus important, c'est de rassurer que ces bénéfices seront réguliers. Et pour ça, il faut être préparé. Et là où il y a la préparation, quand il y a opportunité, le succès est inévitable.
Alors, en parlant de la préparation, cela veut dire que pendant que vous êtes encore en train de travailler quelque part dans une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire déjà à ce moment-là? Faut-il suivre des formations? Faut-il déjà monter un business à la cité qui émette des gens qui vont gérer?
Effectivement, lorsque vous avez une passion, vous avez un rêve et que vous êtes encore professionnel en train de travailler dans une entreprise, vous pouvez déjà commencer à gérer votre temps en prenant des mini-cours. Il y a de mini-cours qui existent. Il y a du cours du soir qui existe sur l'entrepreneuriat, sur le management d'innovation, sur comment investir, avoir l'intelligence de temps, l'éducation financière. Vous pouvez comme ça continuer à vous former et au moment opportun, le temps voulu, vous pouvez vous décider maintenant de vous lancer vous-même parce que votre emploi vous permettra par exemple de vous constituer le premier capital de lancement.
Donc avec le salaire qu'on reçoit chaque mois, on met de côté une partie pour son business.
C'est ça même le début de la richesse.
De la richesse.
Ouais.
Merci, Monsieur Sam Kalambay. Peut-on quitter son emploi pour se lancer dans les affaires? Vous voulez participer à cette émission? N'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-6394. 099-706-6394.
Funky. Sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15.
Peut-on quitter son emploi pour se lancer dans les affaires? Marie-Paul nous appelle de Kisangani et Claude Deka de Goma. On commence avec vous, Marie-Paul. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, moi je crois que en RDC c'est possible que quelqu'un puisse quitter son emploi pour aller dans les affaires. Pourquoi? Parce que les salaires que les gens reçoivent dans des boulots, ce sont des salaires modiques, ce sont des salaires qui ne répondent pas à la logique des SMIC. Je donne l'exemple, nous qui travaillons dans la fonction publique. Si vous touchez beaucoup, vous allez toucher 150 000 francs par mois. Et lorsque vous trouvez un emploi dans une organisation internationale et qu'on peut vous payer 200 dollars, je ne vois pas. On n'a pas les choix, on va aller là où on paye mieux et pour laisser là où on ne paye pas bien. Et nous évoluons dans un système qui nous crochandise au point que nous ne savons pas comment est-ce que nous allons attirer notre emploi.
Marie-Paul, écoutant, là, vous quittez un emploi pour aller dans un autre. Là, c'est, vous ne vous lancez pas dans les affaires. Vous quittez la fonction publique pour aller dans une ONG.
Oui, je comprends. Mais parce que si nous sommes dans la fonction publique, il y a des contrats, mais lorsque vous êtes, la logique est dans des ONG, c'est comme si vous êtes dans une activité qui ne va pas beaucoup plus gérer comme la fonction publique. Et les gens ont tendance d'aller là-bas parce que vous pouvez signer un contrat d'une année, de deux ans, et vous gagnez quand même la vie. Mais il y a aussi les activités, les commerces, et qui payent mieux que la fonction, alors que les gens qui sont déjà engagés avec des matricules devraient beaucoup plus être à l'aise d'aller à l'emploi que d'aller ailleurs.
Alors, D'accord. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, moi je crois que les invités nous disent pourquoi il n'y a pas l'application des systèmes de SMIG en RDC. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas réajuster les salaires déjà par rapport au SMIG comme ça se fait ailleurs? Et pourquoi en deuxième lieu,
Marie-Paul, vous êtes en dehors de notre sujet. Nous, on est dans la logique où quelqu'un décide de quitter son travail, de quitter l'emploi à la fonction publique ou dans une ONG et de se lancer dans les affaires. Voilà, merci. Claude Deka nous appelle de Goma. Bonjour.
Bonjour, Jean-Daniel Kachama.
On vous écoute.
Oh oui, à la question de savoir si l'on peut quitter son emploi pour aller dans les affaires, la réponse, selon moi, elle est facultative. Facultative, je vais répondre d'après ma conviction. Pour moi, la manière dont les agents et fonctionnaires de l'État sont traités avec notre salaire, je pense le maximum c'est des 100 000 francs, hein. 100 000 francs qui est totalement loin, vraiment moins de 100 dollars. Alors, au fait, pourquoi les gens s'appauvrissent? Et la plupart, ce sont les agents de l'État qui sont très pauvres. C'est que ils ont peur de prendre les risques à main. Les risques à main. Comme je suis au Nord Kivu, je vais parler dans le contexte vraiment du Nord Kivu.
Oui.
Nous avons le territoire de Walikale, qui est un territoire minier, si je peux le dire.
Oui.
Alors, mais c'est un milieu tellement insécurisé. Ici à Goma, dans la ville de Goma, je vois des papas, des mamans qui n'ont pas vraiment étudié, qui n'ont pas eu la chance de fouler même leurs pieds en première année primaire, et donc ils sont même incapables d'écrire leur nom. Et pour eux, tellement qu'ils n'espèrent à aucun engagement, ils prennent les risques et ils se lancent à Walikale avec tous les risques qu'ils peuvent suivre. Donc la mort, les accidents, les groupes armés, tout, et ainsi de suite.
Mmh.
Et ça fait peur pour nous, nous autres qui supposons avoir étudié, qui supposons avoir de l'emploi avec nos 100 000 francs,
mmh.
on reste accroupis dans la misère.
Dans la misère,
et
oui.
Ça, ils y vont, et ce sont la plupart des bâtiments qui naissent dans cette ville de Goma. Ce sont des gens là vraiment qui n'ont pas d'emploi et qui n'espèrent aucun emploi, mais
les
qui
hommes d'affaires
quand même,
oui.
En se rendant là. Et pour moi, je me dis, parfois il faut prendre le risque, il faut abandonner un emploi, surtout lorsqu'il est moins rémunératif, et se lancer dans les affaires et voir, donc tenter sa chance. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci Claude Deka. Voilà. Monsieur Sam Kalambay, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Je pense que il a raison sous une certaine mesure. Vous savez, mmh. Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Vous savez, il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de survie et l'entrepreneuriat de création des richesses. L'entrepreneuriat de survie, c'est pratiquement l'entrepreneuriat que nous vivons aujourd'hui.
Mmh.
Ça se manifeste comment? La même boutique que nous avons connue il y a de cela 10 ans, quand on était encore à l'université, jusqu'aujourd'hui, c'est la même boutique, avec la même couleur, avec la même personne.
Avec les mêmes marchandises,
avec le...
ça ne grandit pas, ça ne diminue
voilà.
pas. C'est...
Parce que on est en train de faire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat des survies.
Des survies.
Parce que je veux acheter un pagne, parce que je veux payer la dot, parce que je veux m'acheter une moto et point barre. On ne fournit pas d'efforts pour se former, on ne fournit pas d'efforts pour créer une chaîne dans de nouvelles entreprises.
Mmh.
Maintenant, les autres pays, les autres cultures, on sait qu'on appelle l'entrepreneuriat de création de richesses. C'est ce que nous voyons avec le Nigérien, c'est ce que nous voyons avec tous les autres expats qui viennent dans notre pays. Et c'est à ce niveau-là que nous devons se dire, lorsque je quitte mon emploi, ce n'est pas pour survivre. Je quitte mon emploi pour créer de richesses. Donc, je suis d'accord.
Et certains disent qu'on ne pourra jamais devenir créer des richesses tant qu'on sera employé quelque part. Il est difficile de devenir soit millionnaire ou avoir des richesses quand on est on travaille quelque part, on est employé.
C'est très difficile. Non. La marge est vraiment très très minime.
Oui.
OK. Pour ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, vous savez, on ne peut parler d'emploi que lorsque il y a une compétence, OK, qui est utilisée et payée. Donc, c'est lui qui travaille quelque part, qui a un contrat dans une entreprise public de l'État et qui n'a pas les compétences requises, on ne peut pas appeler ça emploi. Parce que même dans la comptabilité normale, on parle d'emploi lorsque c'est une ressource utilisée et rémunérée. Donc un employé doit avoir les compétences qui sont payées, qui sont rémunérées.
Voilà. Mais vous avez suivi tout à l'heure les cas des fonctionnaires de l'État. Il y a certains qui font carrière, il est fonctionnaire de l'État durant toute sa vie. Même si le travail il n'est plus payé, bon, il continue à se plaindre, il croupit dans la pauvreté. Alors les gens ne veulent pas prendre ces risques-là de se lancer dans les affaires.
C'est un problème d'héritage. Quel est le riche Congolais qui a pu écrire? Quel est le riche Congolais qui a pu penser à laisser un héritage pour les générations futures? Il n'y en a pas. Alors que ailleurs, aux États-Unis, dans d'autres pays, nous voyons comment les riches sont en train de propulser, de créer des incubateurs, de financer des conférences, des écoles. Mmh. Nous, on n'a pas cette culture. C'est un problème des cultures, c'est un problème d'héritage. L'héritage qu'on a, c'est l'héritage de la GECAMINE, l'héritage de la SNCC.
De la MIBA.
Voilà. Donc cet héritage a fait que ça a créé la peur des générations en générations. Et aujourd'hui, les gens s'y lancent par défaut. je deviens entrepreneur par défaut. Or, s'il y avait...
Les gens sont habitués à étudier et puis à aller écrire « J'ai l'honneur » à chercher du travail.
Effectivement, s'il y avait un contrat, s'il y avait une entreprise qui est engagée, je n'allais pas devenir entrepreneur. C'est différent. Mmh. Mais c'est lui qui finit ses études et qui se lance directement. Il sait que je n'ai pas pour entreprendre, il va réussir. Et c'est lui qui décide, comme moi, de rompre avec l'entreprise publique pour me lancer, doit nécessairement réussir parce que c'est un risque et c'est un risque pris consciencieusement. Et avec de l'audace, il peut arriver à créer des richesses. Donc faites la différence entre l'entrepreneuriat de survie et l'entrepreneuriat des créations de richesses. On fait l'entrepreneuriat de survie parce que notre mentalité est encore pauvre.
Évariste nous appelle de Mbujimaï et Gérard d'Issiro. Évariste, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Peut-on quitter son emploi pour se lancer dans les affaires? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Ok, merci de la parole, jeudi, Daniel. Jeudi, vous voyez, ce qui tue d'abord notre pays, c'est un désordre. Dans notre pays, il y a un désordre total. Moi, j'ai décroché mon diplôme d'État en 2016. Je suis resté à la maison pendant un an que je ne travaillais pas. Cette année, je suis affecté à la DGM. Quand je suis affecté à la DGM, je vois, ça ne marche pas. Pour être aligné seulement au boulot, c'est tout un problème. Je suis en train de me poser des questions à l'instant. C'est au lieu de faire même des affaires, au lieu d'être dans le service comme ça. Je suis dans le service bien connu par l'État, mais je ne travaille pas, je ne suis pas mécanisé. Pour toucher quelque chose, tout est un problème.
Est-ce que, Évariste, vous pensez un jour quitter, oublier tout ça et commencer votre business?
C'est ça mon souhait. Mon souhait est de faire ça au lieu d'être là-bas. Hein? Pardon?
Mais pourquoi vous ne prenez pas le risque? C'est votre souhait, mais vous ne passez pas à l'action.
Je n'ai pas compris ce que vous dites, M. Dany.
Oui, vous dites que votre souhait, c'est un jour quitter l'emploi et se lancer dans votre, créer votre propre business. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer jusque-là?
Parce que je n'ai pas encore eu les moyens de faire. Je suis en train d'étudier. Quand j'aurai les moyens, je vais commencer à faire le business après.
D'accord. Quel genre de business voulez-vous faire, Évariste? Voulez-vous entreprendre?
Moi? Oui. Oui. Quand j'aurai l'argent, je saurai ce que je veux faire.
Et jusque-là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire?
Non, je ne sais pas. On raisonne quelque chose quand on a l'argent.
D'accord, merci. L'invité va répondre tout à l'heure. Gérard, vous êtes à Issiro. Bonjour.
Bonjour, jeudi.
On vous écoute.
Bon, je vous ai pris en route. L'invité, s'il avait déjà expliqué l'entrepreneuriat là, et quels sont, quand on quitte les affaires, il ne détermine pas bien comment, quelles sont ces affaires là. Où quelqu'un peut quitter son ancien emploi et entrer dans les affaires. Et s'il peut nous déterminer. Et quand on crée l'entrepreneuriat de survie ou de richesse, quelles sont maintenant les méthodes que lui peut nous enseigner pour qu'on ne quitte plus l'emploi ou qu'on trouve normalement l'entrepreneuriat où on peut vraiment avoir une bonne survie. Ce sont là et mes interventions.
Merci. Innocent, vous êtes à Chikapa. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Innocent.
Ok, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on fait pour rester un entrepreneur? Première question. Deuxième question, le mot entrepreneur est commencé quand et par qui?
D'accord. Merci. Monsieur Sam Kalambay.
Ok. Je vais répondre à Monsieur Gérard. La première des choses qu'il faut savoir, je vais recommencer par Évariste. Il faut pas attendre avoir l'argent pour penser investir, parce que vous n'êtes pas le maître de temps et des circonstances. Les temps peuvent changer. Lorsque vous avez l'argent, les opportunités qu'il y avait peuvent changer parce que seulement vous étiez en train d'attendre. Donc, l'argent en soi, ce n'est pas le billet de banque. Il faut avoir une valeur que vous pouvez échanger pour avoir de l'argent. Donc, l'entrepreneuriat commence premièrement par l'idée. L'entrepreneuriat commence par la créativité. L'entrepreneuriat commence par le besoin qu'il faut satisfaire. Il faut identifier un besoin.
Un problème dans la société.
Effectivement, satisfaire ses besoins et avoir l'argent qui est dans la poche de ceux qui sont satisfaits par votre solution. Alors, pour quitter la survie, comme je le dis, il faut que notre mentalité soit renouvelée. Premièrement, l'entrepreneur, c'est celui qui a une vision. L'entrepreneur doit voir très loin. L'entrepreneur doit se protéger dans 5, 10 ans. Comment il voit son entreprise? Et l'entrepreneur doit se donner de défis et de challenges à relever. Ce sont toutes ces projections qui vont vous permettre de quitter le stade de survie, de payer seulement la maison, de payer le minerval des enfants et vous arrêtez là. Parce que avec ça, nous serons toujours en train de faire l'éternel recommencement. OK? Il y a une question posée par le dernier intervenant qui a parlé de la précision sur cet entrepreneuriat. Quelles sont ces affaires dans lesquelles...
Quel type d'affaires il faut se lancer? Voilà. Celui qui a travaillé quelque part et il veut se lancer, maintenant, il va se lancer dans quoi?
Premièrement, il faut se lancer dans ce qu'on sait assumer. Je ne peux pas me lancer dans la vente des trains. Je ne connais rien dans le train. Je ne peux pas me lancer dans la vente de bateaux. Je n'y connais
aller
absolument...
Aller à Dubaï, aller en Guangzhou, acheter des vêtements, des chaussures.
Je ne connais absolument rien. Mais je ne peux que me lancer dans un domaine où j'ai suffisamment les informations, où j'ai suffisamment calculé le risque et dans un domaine où je peux investir graduellement et évaluer mon investissement.
Donc, commencer à aller à Loufou, par exemple, acheter des marchandises et revenir vendre ici?
Effectivement, il y a de ceux qui ont du succès dans cela, mais il y a aussi de ceux qui connaissent des échecs cuisants. Parce que seulement, ce n'est pas le domaine dans lequel vous voudriez vous lancer. Mais vous savez, en entrepreneuriat, il est possible de tâtonner. C'est comme une roue. Lorsque vous êtes en train de tourner un boulon, vous tournerez jusqu'à ce que le boulon ne bouge plus. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Tous ceux qui sont aujourd'hui des grands entrepreneurs parce qu'ils ont lancé de grands business, quand vous regardez au départ, ce n'est pas le premier business dans lequel ils ont investi de l'argent. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à échouer plusieurs fois. J'ai investi de l'argent dans une terrasse, dans un maléoa, dans plusieurs choses, et j'ai échoué.
Cabine publique, pharmacie.
Ça, c'était d'ailleurs le premier business qui a fait succès dans les années 2000, cabine téléphonique.
Cabine téléphonique, oui.
Donc, l'entrepreneuriat, ça commence premièrement par l'idée que vous avez et les informations que vous avez dans le marché dans lequel vous voulez vous lancer. C'est ce qu'on appelle l'étude de marché.
Par exemple, il y a des gens qui ont travaillé dans les entreprises des télécommunications. Et à un moment, quand il y a eu assainissement, ils ont quitté, ils ont créé leur propre business.
C'est ça même.
Dans les domaines.
C'est
ça même.
Parce
qu'ils ont appris quand ils étaient là-bas.
Ils ont rentabilisé la connaissance acquise et c'est cette connaissance qu'ils sont en train de revendre. C'est ça même le business.
C'est ça même le business.
Yeah.
Théophile Mwamba, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Théophile.
Ok, ma préoccupation est celle de savoir. Il parle un peu, je m'adresse un peu à l'invité. L'invité qui parle un peu de l'entrepreneuriat. Je pense qu'avant de parler, une chose, celui qui pose la question a une partie des réponses. Et je dis ceci, ma question est celle de savoir. Est-ce que l'invité a une unité de production et combien de gens a-t-il déjà recruté? Voici ma réponse.
Voici la question. Voilà. Est-ce que vous avez une unité de production et combien de gens avez-vous donné du boulot?
Ok. Voilà. C'est ça.
D'accord.
Ok.
Vous savez, j'ai évolué très longtemps en tant que consultant et je crois que le modèle de consultant c'est le modèle parfait pour moi dans le business que nous avons lancé. Je suis directeur général de African Voice Pro SRL. Et dans ces business-là, nous travaillons avec ce qu'on appelle des revendeurs. Les revendeurs ou encore des consultants. Nous avons un produit, nous mettons un business model en termes de pourcentage ou en termes de marge. Et ensemble, nous fournissons des efforts. Moi, en tant que celui qui a le produit et vous, en tant que revendeur pour la commercialisation. Et chacun se retrouve dans le win-win. Donc, jusque-là, je privilégie le business en termes de win-win, de pourcentage. En termes de recrutement, ce n'est pas trop l'objectif premier d'un entrepreneur, parce qu'on peut être entrepreneur en réduisant essentiellement le coût en termes de recrutement. L'objectif principal ici, c'est de savoir est-ce que je peux quitter le confort d'avoir un salaire mensuel et me lancer dans un business où moi-même je peux définir mon salaire et être régulier dans mes entrées. Parce que vous savez, ce n'est pas l'entrepreneuriat en soi, ce n'est pas le fait d'avoir un grand nom ou encore un grand business. L'entrepreneuriat, premièrement, c'est de se rassurer que vous avez lancé quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne. Petite soit-elle la chose ou l'entreprise, mais est-ce que chaque jour, lorsque je fais le bilan de la journée, j'ai 100 dollars qui sont entrés, ok? C'est-à-dire que vous êtes dans la régularité des entrées. La deuxième chose maintenant, vous passez à la vitesse supérieure, c'est au niveau de la constance. Est-ce que mes entrées sont régulières? Est-ce que mes entrées sont constantes? Et après la constante, vous allez dans la croissance. Est-ce que je peux prétendre que l'année 2018, je peux quitter de 1000 dollars à 3000 dollars? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce que je peux diversifier? C'est pour ça que vous verrez par exemple qu'il y a de ceux qui ont des salons de coiffure, mais qui mettent aussi l'habillement, qui mettent aussi une terrasse.
Une terrasse à côté.
Parce que on veut la croissance des revenus. L'entrepreneur, c'est celui qui sait s'adapter, mettre des stratégies en place, innover et être créatif.
Mais il y a certains qui travaillent, il a un peu d'argent, et bon, il va acheter, il achète quelques catch, un véhicule qu'il met sur la route pour assurer les transports en commun. De moins, ça lui rapporte, il a des revenus.
Effectivement, c'est un business model qu'il a bien étudié. Il s'est informé, il a fait son business plan, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit dépenser en termes de maintenance, en termes d'entretien, et qu'est-ce qu'il est en train d'avoir comme revenu. Et ça lui permet de se projeter, de dire dans 2 ans, dans 3 ans, je veux quitter par exemple 3 unités pour avoir 10 unités des véhicules que je peux encore lancer sur les marchés. Bref, nous ne sommes pas statiques, nous sommes dynamiques. Donc il est possible de mettre des catch sur la route et de se faire de l'argent.
Et d'avoir aussi des bons chauffeurs qui vous rapportent régulièrement les versements. Clément Daye nous appelle de Kananga, Omar Kigalo de Kinshasa. Clément, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité de la radio Kabylo.
Peut-on quitter son emploi pour se lancer dans les affaires? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Merci de m'avoir intérêt à ce sujet. Alors, je voudrais juste profiter de l'occasion pour demander à notre invité de nous poser certaines questions. La première question est de savoir quelles sont les conditions requises que quelqu'un qui veut devenir vraiment un entrepreneur peut mettre en pratique, soit peut mettre vraiment ensemble afin de devenir un bon entrepreneur, soit un entrepreneur de talent. Alors, la deuxième des questions, je l'ai entendu parler d'un certain calcul qu'il a fait par rapport au temps, par rapport aux années. Alors, je voudrais juste savoir en quoi le calcul là peut être vraiment bénéfique pour quelqu'un qui veut devenir un entrepreneur. Alors, la troisième des questions, il faut combien de temps que quelqu'un peut se préparer pour devenir un entrepreneur dans le cadre de business. Voilà ce que je voudrais savoir. Alors, merci de m'avoir inséré. Et puis, bonne journée chez vous.
Merci. Peut-on quitter son emploi pour se lancer dans les affaires? Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, je veux dire merci du temps que vous m'accordez. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
La première question est celle de savoir, je dirais que mon prédécesseur a dit, j'ai comme l'impression, très cher jeudi, qu'il y a, yes, mais il y a une incohérence entre ce qui est enseigné et ce qu'on vit. L'entrepreneur, on lui a posé la question de savoir s'il a créé une entreprise. Il a répondu un peu attentivement. Je me rends compte qu'au Congo et en Afrique, il y a beaucoup d'éducateurs financiers, mais on n'a aucun millionnaire en francs ou en dollars parmi ces éducateurs-là. Il y a beaucoup de gens qui traitent sur la question des emplois, mais eux-mêmes n'ont même pas d'emploi avec même ne serait-ce que 10 employés. Moi, je pense que le meilleur moyen serait lorsqu'on prêche de quelque chose, qu'on prêche aussi par l'exemple. On a pourquoi même à l'église, lorsqu'un patron n'est pas marié, on lui demande de célébrer un mariage. Je suis d'accord qu'on peut quitter son emploi pour créer l'entreprise, c'est mieux, mais je me demande des gens qui ont fait de prêcher par l'exemple. Vous venez nous dire des entreprises, vous dites quelle entreprise avez-vous créé, ça pourrait davantage stimuler les gens. Deuxième question, est-ce que ailleurs, ça avance, n'avance pas. Est-ce que, monsieur l'invité, vous pensez qu'il y a aussi un problème d'environnement? Moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement d'avoir potentiel et encore les capitales pour commencer. Il faut aussi penser à l'environnement dans lequel nous vivons. Ailleurs, par exemple, aux États-Unis, en France, le ministère ou le droit de l'entrepreneuriat facilite les entrepreneurs. On peut avoir des millions, on peut avoir des bons projets, on peut avoir l'initiative et la volonté. Mais si l'environnement dans lequel on évolue, on ne vous facilite pas par rapport au texte, par rapport à cela, est-ce que ça va vraiment avancer? Donc je voudrais d'abord lui dire, mais interpeller par rapport à ce que j'ai remarqué, beaucoup d'éducateurs financiers n'ont même pas des millions pour preuve. Comme le plus riche d'Afrique, c'est un Nigérien, aucun Congolais n'y est. Deuxième chose, beaucoup de prêcheurs d'éducateurs d'emploi ou encore d'emploi n'ont même pas eux-mêmes créé l'argent. Pourquoi cela s'explique? Et j'ai fini par demandant, est-ce que l'environnement dans lequel on évolue dans les affaires peut aussi jouer du fait qu'on doit alléger la fiscalité et autres? Voici mes deux préoccupations. Je vous remercie.
Merci à Omar Kigalo. Alexandre, vous êtes à Mouenéditou. Bonjour.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs et amis.
Veuillez réduire le volume de votre radio. Alexandre, vous allez suivre à partir de votre téléphone.
Ça va, merci beaucoup.
D'accord.
Je passe directement à intéresser notre invité.
Oui.
Notre invité a parlé de comment on peut gérer l'entrepreneuriat. Mais ma question est basée sur comment est-ce qu'on peut avoir l'intelligence du temps. Parce que je l'ai entendu aussi expliquer sur l'intelligence du temps. Alors j'aimerais un peu qu'il éclaircisse sur ce point. Comment on peut avoir l'intelligence du temps avant d'entreprendre l'entrepreneuriat de richesse. Je voulais encore lui demander comment est-ce que nous pouvons nous élancer à l'entrepreneuriat de richesse tant que nous avons un emploi qui nous ramène presque un salaire médiocre, un salaire, on peut dire, maigre. Alors, dans ce sens-là, comment est-ce qu'on peut gérer les moyens de salaire-là afin que les restes de nos jours soient les jours où nous nous servons nous-mêmes? Alors, c'était là les questions que j'avais. Dès notre intervention, je peux reprendre.
Merci beaucoup. Monsieur Sam Kalambay, vous avez la parole.
Je vais commencer par la première question. Comment quitter l'entrepreneuriat de survie et les conditions requises pour être un bon entrepreneur? OK. Alors, en même temps, j'aimerais aussi répondre par rapport à la question de l'éducation financière. Je commence par là et puis je vais rebondir sur l'entrepreneuriat de survie et les temps requis pour être un bon entrepreneur. Je crois que nous sommes 80 millions d'habitants à peu près, ou 70 millions, si je ne me trompe pas, et que il n'y a aucune période, aucune époque de notre nation où on est en train de parler de l'éducation financière comme cette période ici. Il y a maintenant plusieurs conférences, il y a maintenant plusieurs séminaires, il y a maintenant plusieurs centres de formation qui s'ouvrent. Vous savez, vous devez être des gens qui savent lire l'histoire. Chaque nation, chaque peuple a une histoire. Et chaque peuple a une époque qui correspond à un événement, à un changement qui doit se produire. Et je crois que l'avenir du Congo va se construire par l'entrepreneuriat. Parce que nous n'avons pas de système fiable qui peut permettre à ce qu'un Congolais prétende devenir riche, avoir une vie stable. Et ce n'est que l'entrepreneuriat qui créera des richesses, l'entrepreneuriat qui créera de l'emploi. Donc, qu'il y ait 18 000 éducateurs financiers, qu'il y ait 20 millions de coachs, moi je suis content pour cela, parce que le plus important, c'est le changement de mentalité, le changement de la culture. Je n'attendrai pas d'avoir 10 millions de dollars, je n'encouragerai aucun coach d'avoir 20 millions de dollars pour prétendre venir enseigner sur l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est dynamique, comme je le dis.
Ça change à tout moment.
Il y a de l'argent sexuellement transmissible. OK? Il y a des principes qu'on ne peut pas dire, voilà, j'ai appliqué tel principe pour avoir autant de millions. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau. Mais il faut avoir les bases. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup d'éducateurs pour changer la mentalité. Ça, c'était par rapport à mon ami.
Omar voudrait voir ces gens-là déjà des millionnaires pour, il dit qu'on prêche par l'exemple.
Je pense que le plus important, c'est le résultat. Est-ce que ce que je te dis, tu l'as appliqué, ça a marché ou pas? C'est le plus important. Les Américains disent, you are better as are your numbers. Tu es aussi bon que sont tes chiffres. Si tu as eu de résultats, c'est que ça marche. Comme je le dis, nous avons un programme qu'on a lancé, ce petit, mais ça marche. C'est ça le plus important. Alors, le temps requis pour être un bon entrepreneur. En chinois, le mot crise est traduit en weiji. Weiji qui stipule la décision et l'opportunité. En réalité, eux, ils ne voient pas la crise.
Lorsqu'il pour les Chinois, toute crise est une opportunité.
Effectivement, c'est weiji. Donc, il y a opportunité, il y a décision. OK? Donc, devant l'entrepreneur, il y a des opportunités à saisir. Moi, je peux me lancer dans le business aujourd'hui. Ça me prendra peut-être 20 ans pour jouir totalement de mon business. Mais il y a un autre qui se lance demain. Ça lui a pris que une année, deux ans pour jouir pleinement de son business. Mmh. Tout dépend donc de l'opportunité que tu as saisie, du modèle de business que tu as lancé et du problème que tu as résolu. Mais je dirais que l'entrepreneur doit se préparer en amont. Pourquoi ? Parce qu'il doit calculer le risque, savoir exactement dans quoi il est en train de se lancer pour limiter les dégâts en termes de coûts d'investissement. Mmh. Alors, j'aimerais parler des conditions, l'environnement que nous avons, l'environnement fiscal et tout ça. Effectivement, c'est un sérieux problème. Je crois que je suis auteur du livre « Jeunesse et PME ». Le premier tome parle de 50 choses à savoir avant de tuer sa PME. Et le deuxième tome parle de la proposition politique. Nous n'avons pas une politique entrepreneuriale au Congo. Il n'y a pas un système, il n'y a même pas un fonds pour l'entrepreneuriat. Il n'y a aucune école pratique sur l'entrepreneuriat. Donc nous sommes en train de passer dans une ère nouvelle où l'entrepreneuriat doit devenir un modèle, une référence. Rappelez-vous, nous avons eu des modèles que dans le sport et dans la musique. On n'a pas eu de modèle des jeunes, ok?
Dans les business.
Où on peut faire le cursus, on suit son cursus et on peut se dire ça c'est un modèle qu'on peut répliquer pour notre génération. C'est vrai qu'il y a de ceux qui commencent maintenant à lever la tête. Mmh. J'en connais peut-être pour ne pas faire la publicité, je ne vais pas citer les noms. Mais je vous dis que moi, je me sens très confortable dans cette période ici. Mais l'environnement fiscal doit être revu afin de permettre aux start-up, aux PME, aux jeunes entreprises de respirer.
Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui travaillent encore, des employés quelque part et qui ont des idées, qui voudraient un jour devenir entrepreneurs? Quels conseils vous pouvez leur donner?
Le premier principe que je vais énoncer ici, c'est que vous exigerez de l'argent à votre business et votre business vous exigera le temps. Vous serez employé, mais il faut prendre la décision un jour d'accorder du temps à votre business. Le temps, c'est ce qu'il vous faut pour avoir des résultats dans votre business. Mais aussi, il faut exactement avoir un problème que vous êtes en train de résoudre.
Et vous avez parlé de mettre de l'argent de côté petit à petit, on reçoit un salaire, on épargne pour son business futur.
Le plus grand ennemi de l'entrepreneur, c'est la dette, c'est le manque d'épargne. Donc si vous épargnez, vous avez déjà un pas vers la richesse, vers le succès.
Et vous avez parlé des formations qu'il faut également suivre.
Le trois problèmes, à part le financement,
oui.
Les trois problèmes de l'entrepreneur, c'est l'information, la formation et les débouchés. Donc...
Pour ceux qui veulent vous contacter et poursuivre la discussion après, comment vous joindre?
Au 09 97 58 2003 ou encore ils peuvent venir me voir au bureau. Je suis au Crown Tower au 15e niveau, local 1505. C'est là que nous recevons les gens pour des coachings. Mmh. Donc notre société c'est African Voice Pro SARL. Je suis manager de Mama Lydia l'artiste et je manage beaucoup d'autres artistes. C'est ça mon business.
Bien, 09 97 58 2003. Sam Kalambay, consultant en business développement, stratégiste et coach en entrepreneuriat. Merci.
Merci beaucoup, Judy.